Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Saad Hariri est-il ou non retenu contre son gré en Arabie Saoudite? Le Premier ministre libanais, démissionnaire, a assuré dimanche à la télévision que ce n'était pas le cas, mais il n'a visiblement pas convaincu. Pour le président libanais Michel Aoun, c'est clair, il est bien prisonnier des Saoudiens. Alors, il faut rappeler que c'est depuis Riyad que Saad Hariri a annoncé sa démission il y a 10 jours et qu'il a expliqué l'avoir fait pour dénoncer la mainmise de l'Iran et du Hezbollah sur le Liban. Depuis, la région n'en finit plus de vibrer en écho à cette déflagration politique, considérée sans doute à juste titre comme la volonté de l'Arabie Saoudite d'en découdre indirectement avec son grand rival iranien. Dans cet épisode qui fait craindre pour la stabilité de la région, si tant est qu'on puisse parler de stabilité aujourd'hui, il y a un acteur qui, sans être absent, paraît plus discret, Israël. Non pas que le pays se désintéresse du sujet, le gouvernement israélien parle même d'un casus belli à propos de l'avancée des Iraniens dans la région, mais sa position paraît pour l'instant surtout attentiste, comparée en tout cas à l'activisme déployé par son allié, car c'en est devenu un, saoudien. Alors les Israéliens ont-ils encore la main au Proche-Orient ? Eh bien, c'est de cette question dont nous allons discuter ce soir en compagnie de Frédéric Ancel. Bonsoir.
Bonsoir.
Maître de conférence à Sciences Po Paris, professeur à la Paris School of Business. Vous êtes spécialiste notamment d'Israël. Vous avez publié en octobre dernier, donc c'était il y a un mois, au PUF, mon dictionnaire géopolitique. Pour discuter avec vous, Belig Nabli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Par ailleurs, cofondateur du site d'analyse politique et géopolitique chronique.fr, un tout jeune site qui rejoint ce vaste monde des pure players. Vous avez publié, c'était Charmant Collin, c'était un petit peu plus vieux, en 2013, Comprendre le monde arabe. Et puis notre troisième invité est en duplex de Jérusalem, dans les studios de Radio France. Il s'agit de Frédéric Chilot. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, spécialiste d'Israël et des relations internationales. On peut vous lire régulièrement sur votre blog moyenorient.overblog.com. Alors, on va parler ce soir donc d'Israël et de l'hypothèse qui paraît de plus en plus, comment dire, à prendre en considération d'une nouvelle guerre que le pays pourrait mener au Liban contre le Hezbollah. Mais avant peut-être de s'interroger sur cette hypothèse, il faut sans doute comprendre les raisons qui font qu'aujourd'hui on se pose cette question. Belig Nabli, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une nouvelle donne régionale qui fait que côté israélien et peut-être aussi côté Hezbollah, on se pose la question d'un possible ou d'un futur conflit?
Franchement, c'est une question, une hypothèse qui se pose régulièrement depuis un certain nombre d'années. C'est presque une ancienne. Donc en ce sens, ce n'est pas si nouveau. Par contre, effectivement, le contexte est nouveau, dans la mesure où la guerre en Syrie, d'une certaine manière, a reconfiguré la géopolitique de la région, à travers notamment un ancrage du Hezbollah sur le territoire syrien, et ce qui a ouvert un nouveau front, du point de vue israélien, dans sa confrontation directe et indirecte vis-à-vis de la milice chiite libanaise. Et cette perception-là israélienne, cette perception qui conçoit le Hezbollah comme l'ennemi numéro un finalement, en tout cas l'allié numéro un de l'Iran, qui est la puissance régionale qui incarne finalement l'ennemi stratégique israélien, dans ce contexte-là, effectivement, le contexte a évolué et Israël conçoit finalement une reconfiguration de la région.
On peut parler peut-être d'une forme de clarification de du conflit en Syrie avec ce qui s'annonce, même si c'est pas encore totalement acté, mais comme une défaite de l'État islamique, Frédéric Ancel, et qui fait réapparaître le Hezbollah comme un adversaire, comme un ennemi beaucoup plus visible pour les Israéliens.
Oui, c'est juste. Derrière le Hezbollah, c'est évidemment l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran fait figure de grand épouvantail pour Israël, c'est-à-dire de seule véritable menace potentiellement stratégique. C'est-à-dire une menace vitale, notamment au cas où les Iraniens disposeraient de la bombe. Par ailleurs, les menaces tactiques, elles, sont représentées par le Hamas, par des groupes palestiniens plus ou moins virulents, par le Hezbollah aussi, car le Hezbollah n'est pas une menace vitale pour Israël, mais c'est une menace tactique liée à l'Iran, menace stratégique, voyez. Donc on est effectivement là face au bras armé de l'Iran, en tout cas c'est comme ça que les Israéliens le voient, jusqu'à présent, c'est-à-dire depuis la guerre de 2006, au fond, on a assisté à une espèce de statu quo, c'est-à-dire que le Hezbollah dispose d'une implantation dans la population du Sud-Liban tout à fait importante, d'une part. D'autre part, la FINUL bis, en principe, sépare les anciens belligérants. Et puis après tout, le Hezbollah est chez lui au Liban. Mais là où les Israéliens semblent se fâcher, c'est s'il devait y avoir une implantation durable du Hezbollah et ou d'officiers supérieurs iraniens en Syrie, c'est-à-dire de l'autre côté du plateau du Golan. Et là, j'invite vos auditeurs, mais comme toujours lorsqu'on fait de la géopolitique, à se munir d'une carte du Proche-Orient, parce que les Israéliens n'auraient plus seulement la présence militaire du Hezbollah au nord, c'est-à-dire à la frontière libanaise, mais aussi au nord-est, c'est-à-dire à leur frontière syrienne. Et c'est ça qui aujourd'hui inquiète particulièrement Israël.
Et c'est ce qui fait peut-être dire au ministre de la coopération régionale, Tzaki Hanegbi, je ne sais pas si je prononce correctement son nom, mais c'est un proche du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, voir l'Iran à nos frontières, c'est un casus belli. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette déclaration, Frédéric Chillot ? Est-ce que c'est juste un simple avertissement ou ça veut dire peut-être quelque chose de plus ?
Non, depuis quelques temps déjà, Israël désigne des lignes rouges, et en fait des lignes rouges à l'Iran, avec sa présence de plus en plus importante aux frontières d'Israël, et avec le Hezbollah dans le nord. Mais effectivement, la menace la plus importante aujourd'hui, c'est bien sur le Golan et sur la frontière le long de la Syrie. Il y a eu un accord qui a été passé il y a quelques jours avec les États-Unis, la Russie et la Jordanie pour prévoir une zone de désescalade dans laquelle aucune milice iranienne ne serait postée. Alors c'est le Hezbollah, mais c'est aussi des milices irakiennes et d'autres milices. Mais Israël voit très proche de sa frontière, à 50 kilomètres en réalité de sa frontière, une présence iranienne installée. Et il y a cette question, selon les révélations de la BBC, d'une base militaire iranienne durable. Et donc ça, c'est vraiment une ligne rouge pour Israël. Alors depuis plusieurs temps, Israël a attaqué des positions et du Hezbollah, a attaqué des convois d'armes. Il y a un cran qui a été passé en septembre quand Israël a attaqué une base qui servait de dépôt et d'armes chimiques. Mais aujourd'hui, on monte à nouveau d'un cran. Et effectivement, c'est sur la frontière avec la Syrie que la situation est la plus volatile.
Alors restons justement sur cette idée de ligne rouge. Est-ce que ces lignes rouges, elles sont constantes avec le temps ou bien est-ce qu'elles évoluent aussi en fonction du contexte, Malik Nabli ?
Elles sont constantes. Ce qui est assez impressionnant, c'est que depuis la naissance d'Israël, vous avez véritablement la définition d'une géopolitique qui place au cœur de la stratégie israélienne l'idée d'ennemi et de menace. C'est-à-dire que la définition de l'existence d'Israël se base sur l'existence d'un ennemi. L'identification de cet ennemi peut évoluer dans le temps. Je veux dire, aujourd'hui, c'est le Hezbollah, c'est l'Iran, mais avant, c'était la Syrie aussi, c'était l'Irak, c'était l'Égypte, si on remonte un peu plus loin. Donc, l'identification de l'ennemi est fondamentale dans la définition de la stratégie israélienne dans la région. C'est son identité, l'identification de cet ennemi qui évolue. Ce qui est assez remarquable aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le contexte a évolué. Et on aurait pu imaginer que ce nouvel ennemi soit l'État islamique. Ce n'est pas du tout le cas. Il n'est pas identifié clairement, explicitement, comme étant la menace stratégique pour l'existence d'Israël. Ça reste l'Iran, conformément à un discours qui est rebattu de la part du Premier ministre Netanyahou. Rappelez-vous son discours à l'ONU avec l'image, une photo, on voyait une bombe qui allait exploser. Et il sait qu'il a perdu la défaite diplomatique dans la mesure où il y a eu un accord.
Mais jusqu'où l'Iran ne doit pas aller pour ne pas provoquer justement une réaction qui pourrait être une réaction armée de la part d'Israël?
Mais c'est très intéressant, la manière de poser la question, c'est qu'encore une fois, on réfléchit, on conçoit la géopolitique de la région à partir de la logique de la sécurité d'Israël, ce que ses voisins n'acceptent pas. C'est-à-dire qu'ils ne conçoivent pas leur place dans la région à partir du postulat de la sécurité israélienne. On peut très bien admettre que du point de vue israélien, la question sécuritaire soit stratégique et première, mais on ne peut pas imposer non plus cette logique à l'ensemble de la région.
Et c'est ce que veulent faire et c'est ce que font les Israéliens dans la région, Frédéric Ancel, c'est-à-dire imposer leur vision de leur propre sécurité et donc poser des lignes rouges qui ne doivent pas être franchis ?
Alors, je suis d'accord sur la définition de l'ennemi et sur les lignes rouges depuis 1948, qui d'ailleurs avaient été déjà édictées par Ben Gourion, par le fondateur de l'État, qui lui-même était un véritable stratège d'ailleurs. En revanche, je pense que les voisins, enfin les représentations de ces lignes rouges de la part des voisins ont changé. L'Égypte et la Jordanie sont non seulement en paix avec Israël, mais aujourd'hui, d'un point de vue militaire et sur le plan des renseignements, sont littéralement alliés d'Israël. Pourquoi ? Parce que, pour le coup, l'épouvantail est commun aujourd'hui. Hein, ce fameux axe chiite contre l'axe sunnite, ce que j'appelle pour ma part une véritable guerre froide, de moins en moins froide d'ailleurs, entre l'Arabie Saoudite et ses alliés, dont ceux que je viens d'évoquer, Jordanie, Égypte, Émirats, etc. Et de l'autre côté, l'Iran et ses alliés, voient finalement ces États arabes se rapprocher considérablement du point de vue israélien. Non pas qu'ils deviennent favorables à l'idéal sioniste des fondateurs d'Israël, c'est pas le problème. Mais ils se représentent aujourd'hui leur ennemi principal comme étant l'Iran et ses alliés, certainement plus Israël. Donc de ce point de vue-là, les Israéliens se retrouvent effectivement, j'ai envie de vous dire, dans une certaine mesure confortés par une partie importante du monde arabe qui, encore une fois, sans reconnaître forcément l'État d'Israël, par exemple l'intégralité du Maghreb ne reconnaît pas officiellement l'État d'Israël, mais la péninsule arabique, officiellement, aucun de ces États ne reconnaît l'État d'Israël. Sauf que on a sur le terrain, très concrètement, maintenant, un Israël qui en quelque sorte s'intègre dans une espèce d'axe, allez, qu'on va appeler sunnite ou américano-sunnite, si vous voulez. Donc, je suis d'accord, mais les voisins eux-mêmes changent, les voisins arabes, je veux dire, changent leur représentation de l'ennemi principal.
Quand vous dites Israël qui s'intègre, ça veut dire que c'est la diplomatie israélienne, en tout cas sa politique étrangère, ne se pense plus comme isolée et comme Israël contre le reste du monde. C'est-à-dire ça, c'est pensé comme faisant partie d'un ensemble.
Non, je pense que le syndrome de Masada demeure. C'est-à-dire, nous sommes isolés, personne ne nous aime, je le fais vraiment extrêmement court, hein, mais à escient, et de toute façon, nos seuls véritables alliés se trouvent en Occident. Ça, je pense que cette représentation lacostienne demeure. En revanche, quand je vous parle de concrétisation, de renseignement et de coopération militaire, on est là sans nécessairement s'entendre dans les grands débats universitaires ou d'ailleurs à l'Assemblée Générale des Nations Unies, où les États arabes, en général, votent toujours contre Israël. Eh bien, sur le terrain, face à la pénétration de l'Iran et de ses alliés, on s'entend en revanche extrêmement bien. Vous voyez, donc le discours ne change pas nécessairement, mais sur le terrain, les actions changent.
Belignavi ?
Oui, effectivement, il y a peut-être un paradoxe qu'on a du mal à admettre ici, c'est le rapprochement, par exemple, de l'Arabie Saoudite et d'Israël, qui coopèrent de manière non officielle, mais qui coopèrent incontestablement sur le plan diplomatique et du point de vue des renseignements, parce qu'ils ont identifié un ennemi stratégique commun qu'est l'Iran. Donc, de ce point de vue-là, on vit un moment historique, incontestablement, et qui participera à la reconfiguration régionale des alliances entre les États et les puissances de la région. Par contre, je voudrais revenir sur l'histoire des lignes rouges, parce que c'est très intéressant. Il y a des lignes rouges qui sont définies aujourd'hui par Israël et qui sont concevables, entendables, audibles du point de vue géostratégique. Par exemple, lorsque Israël dit que il serait inconcevable de voir une base du Hezbollah à la frontière syrienne et à quelques kilomètres donc d'Israël. Par contre, Israël continue à penser que le Golan occupé et que la majeure partie de la Cisjordanie représente aussi des enjeux stratégiques, que d'une certaine manière l'occupation est légitimée par l'intérêt stratégique d'Israël et que par conséquent cette idée de ligne rouge fondée sur une logique sécuritaire, encore une fois, légitime une politique de colonisation et d'occupation militaire.
Mais Frédéric Chillot, on va revenir sur la question de l'alliance avec l'Arabie Saoudite, qui est évidemment extrêmement importante. Et puis d'ailleurs, dans la manière de la nommer, est-ce qu'il faut parler véritablement d'alliance ou d'agenda commun aujourd'hui ? Mais pour rester encore un instant justement sur ces lignes rouges, est-ce que ça n'est pas dans la tradition de la politique israélienne de laisser quand même un peu de flou pour se laisser suffisamment de marge de manœuvre pour décider, ben voilà, dans tel cas je vais intervenir, dans tel autre cas je ne le ferai pas. J'ai relevé en préparant l'émission une phrase du correspondant du Monde à Jérusalem, Piotr Smolar, qui écrit ceci : l'État hébreu ne définit jamais précisément les motifs pour lesquels il pourrait agir militairement.
En tout cas, c'est peut-être vrai, mais pas sur l'Iran. Et certainement pas avec quelqu'un comme Benjamin Netanyahou. Parce que Benjamin Netanyahou, il s'enorgueillit d'être le premier à avoir pointé la menace de l'Iran. D'ailleurs, c'est partiellement vrai. C'était Rabin en 92, mais dès 96, la première fois où il arrive au pouvoir, Netanyahou fait de l'Iran une menace existentielle pour Israël. Et il ose des comparaisons, par exemple, en parlant de l'Iran comme d'une menace d'une nouvelle Shoah. Et c'est même le directeur de l'énergie atomique israélienne qui lui demande d'arrêter ces comparaisons osées.
Alors, il faut dire aussi que l'Iran a eu un président, Ahmadinejad, qui a appelé à la destruction d'Israël.
Oui, c'est vrai. Et depuis, Netanyahou n'a pas cessé de parler des menaces iraniennes. Il a effectivement, à l'Assemblée générale de l'ONU, fait des discours très offensifs. On se souvient du graphique avec la ligne rouge sur la bombe iranienne. Depuis, il a continué, mais en réalité, il s'est passé des choses depuis. Il y a eu l'accord nucléaire. Et Netanyahou continue d'être aussi offensif sur l'Iran, mais en réalité, ici en Israël, il y a un consensus depuis l'accord iranien, un consensus au niveau des décideurs militaires de Tsahal, du fait que cet accord nucléaire n'est pas si mal que ça, disons que c'est le moins pire. Mais Netanyahou continue à politiser la question du nucléaire iranien et à mélanger la question du nucléaire avec les autres affaires iraniennes qui concernent par exemple la balistique ou bien la menace de l'Iran terroriste de l'Irak en Syrie jusqu'au Liban.
Est-ce que ça veut dire en tout cas Frédéric,
il a raison.
Est-ce que ça veut dire en tout cas Frédéric Chilo qu'aujourd'hui en Israël, au moins au niveau du gouvernement, on se prépare à l'éventualité d'une intervention militaire, notamment au Liban contre le Hezbollah.
En septembre dernier, il y a eu un grand exercice militaire. C'est le plus grand exercice jamais réalisé depuis 20 ans. Et c'était une simulation d'attaque du Hezbollah. Ça veut dire que pour Israël, la principale menace aujourd'hui, ça n'est pas une attaque venant de Gaza, bien que ce soir même, le dôme de fer est déployé dans tout Israël, même autour de Tel Aviv depuis hier soir. Non, la véritable menace, elle vient du nord, du Hezbollah, et un appui ensuite de l'Iran avec la frontière en Syrie.
Je vais citer un extrait d'un rapport récent d'un think tank composé de militaires, le High Level Military Group. Je ne sais pas si vous le connaissez, moi j'ai découvert à la faveur de cette émission, et qui dit ceci: le Hezbollah ne souhaite pas voir de conflit éclater actuellement, étant donné qu'il cherche encore à consolider ses avoirs en Syrie et à poursuivre ses entraînements au Liban. Cependant, ses actions et sa propagande suggèrent qu'ils envisagent avec certitude de se battre avec Israël à un moment donné. Frédéric Ancel.
Ce serait exact si l'Iran était attaqué par Israël. Il est absolument évident que là, le Hezbollah réagirait d'abord sous les ordres de Téhéran. Téhéran a créé le Hezbollah en 82. Bon, réagirait immédiatement à la frontière. C'est de ce point de vue-là le bras armé de l'Iran. Mais ça ne se passera pas. Ça, j'y crois absolument pas. D'autre part, ce serait le cas si le Hezbollah connaissait une situation extrêmement difficile en interne, au Liban, car là, il pourrait tenter de renforcer, en quelque sorte, de tendre le ressort de ses énergies, j'allais dire nationales, en tout cas chiites au Liban, en tapant sur l'ennemi commode qu'est Israël, donc pour se revaloriser, en quelque sorte. Ce n'est pas le cas. On voit bien que politiquement, le Hezbollah n'a jamais conquis autant de points que depuis cette dernière décennie. Enfin, le Hezbollah, aujourd'hui, est très puissant, pas seulement militairement, mais politiquement. Autrement dit, je crois que faute de combattants, il n'y aura pas, je suis peut-être trop optimiste, mais a priori, il n'y a pas de raison, en tout cas immédiate, pour un véritable conflit entre le Hezbollah et Israël. On l'a très bien dit il y a un instant, le Hezbollah est occupé à défendre Assad. Alors même si Assad a quasiment gagné la guerre, il faut tenir le territoire et c'est loin d'être gagné, surtout à l'est et au nord du pays. Quant aux Israéliens, le Liban, pour eux, si vous voulez, avec 82 et 2006, c'est quand même c'est un double souvenir extrêmement douloureux. En revanche, je serais moins...
Et douloureux, et en même temps, c'est quelque chose qui a contribué à la gloire du Hezbollah 2006, même si d'un point de vue des victimes, c'est extrêmement déséquilibré. Mais enfin, le Hezbollah, c'est quand même plutôt... Je ne sais pas si on peut dire bien battu, enfin en tout cas à résister à cette intervention israélienne.
Mais justement, là je vous parle du
souvenir douloureux
israélienne. Moi, je parle du souvenir douloureux pour les Israéliens.
Ah, pardonnez-moi,
Pardon. Le Liban, pour eux, où ils sont entrés en 82 et en 2006, n'a jamais été très concluant, c'est le moins qu'on puisse dire. Juste un mot pour rebondir sur ce que disait à juste titre Béli Nabi sur le Golan. C'est bien sûr que le Golan était conquis en 67 et annexé en 81, mais aujourd'hui, les Israéliens, fussent-ils de gauche, voire de la gauche radicale, disent, mais enfin, heureusement qu'on l'a conservé. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, regardez ce qu'il y a en face, c'est pire que, que Hafez à l'époque ou que Bachar el-Assad, c'est des groupes djihadistes qui pourraient voir l'Iran, qui pourraient pénétrer sur notre territoire et accéder directement au lac de Tibériade. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai, mais ça ne fait même pas débat en Israël, notamment sur le plan sécuritaire. Quant à l'État islamique, c'est tout à fait exact, il n'était pas considéré, il n'est pas considéré comme une menace stratégique, mais pour une raison simple, il n'a jamais approché des frontières d'Israël, et sur le plan strictement militaire, il était vu par Israël comme une bande de va-nu-pieds. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas au niveau de la puissance du Hezbollah, et évidemment pas de la puissance de l'Iran.
Mais Gnabli, vous êtes d'accord avec l'idée que le Hezbollah n'a pas besoin aujourd'hui d'un nouveau conflit avec les Israéliens pour continuer de peser et politiquement et militairement ?
Aujourd'hui, le Hezbollah est concentré d'abord sur le conflit syrien qui n'est pas terminé. Il faut, malgré l'accélération de la déliquescence de l'État islamique, la question de la reconstruction de la Syrie, de la place du Hezbollah dans le futur de la Syrie est vraiment la priorité peut-être de l'agenda du Hezbollah du point de vue extérieur et du point de vue intérieur, c'est-à-dire du point de vue libano-libanais. Pour le coup, il y a une situation extrêmement complexe, un enjeu extrêmement fort sur une reconfiguration de l'échiquier politique que veut l'Arabie Saoudite, et si cette reconfiguration devait prendre forme, ça signifierait une remise en cause du leadership du Hezbollah, ce qui n'est pas du tout envisageable aujourd'hui. Le Hezbollah a réussi ce tour de force qui consiste à s'imposer à la fois dans le jeu politique et dans le système sécuritaire libanais. Et à partir de là, on a là la base de la puissance du Hezbollah. C'est sa centralité au Liban et sa capacité à nouer des accords, des alliances du point de vue régional. Oui.
Non, je voulais juste redonner le titre, pardonnez-moi, je croyais que vous aviez terminé, Félix Nagli, de l'émission de ce soir. Les Israéliens ont-ils encore la main au Proche-Orient ? Donc avec vous, Félix Nagli de l'IRIS, Frédéric Ancel, qui est professeur, rappelez-moi où ça,
à Sciences Po Paris et à la Paris School of Business.
Voilà, et l'historienne Frédéric Chilo qui est en duplex de Jérusalem. Je voudrais qu'on aborde à présent, si vous le voulez bien, la relation, le partenariat entre Israël aujourd'hui et l'Arabie Saoudite. Frédéric Chilo, comment est-ce que vous la qualifieriez cette relation aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut parler d'allié entre ces deux pays ?
Ah oui, c'est une alliance et en relations internationales, c'est à tout d'une alliance occasionnelle, c'est-à-dire une alliance dont les parties se rassemblent parce qu'ils se trouvent un ennemi commun à un moment donné. Aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite et Israël contre l'Iran, mais auparavant, par exemple, Israël, dans les années 50, avait une stratégie de la périphérie pour contrer ses opposants et il s'alliait à l'époque avec des non-arabes. Il s'alliait avec l'Iran du Shah et avec la Turquie. Aujourd'hui, vous voyez, c'est un retournement complet stratégique, mais cette alliance, qui ne dit pas encore officiellement son nom, elle existe depuis plusieurs années et il y a eu un véritable alignement des planètes en 2015. D'abord, il y a eu l'arrivée de Salman au pouvoir en Arabie Saoudite et son fils, propulsé ministre de la Défense, et puis cet accord nucléaire iranien qui va faire s'engager véritablement israéliens et saoudiens contre l'Iran. Il y a eu de nombreux faisceaux qui montraient que cette alliance était prégnante. Par exemple, en 2016, Israël a donné son accord pour la rétrocession par l'Égypte de deux îles à l'Arabie Saoudite. Le fait même qu'il donne son accord, on a dit ici en Israël que c'était vraiment le haut de l'iceberg et que vraiment il y avait de nombreuses relations secrètes et officieuses. Il se dit même que au mois de septembre, MBS, le prince héritier saoudien, était en Israël. Et le fin de cette alliance, c'est que l'alliance tournée uniquement contre l'Iran ne peut être effective, ne peut être dite officiellement. Pourquoi ? Parce que, on sait, selon les sondages d'opinion, plus de 85% des Arabes refusent absolument une reconnaissance de l'État d'Israël.
Et d'ailleurs, il y a eu un communiqué il y a quelques jours de cela, c'était au début du mois, de l'agence de presse saoudienne, qui se basait sur des déclarations officielles et qui évoquait que le soutien répété de l'Arabie Saoudite aux Palestiniens contre l'occupation criminelle israélienne. Il y a les discours, il y a des discours pour les médias, des discours officiels, Belignabi, et puis il y a la réalité des alliances, ou d'une alliance qui peut aller jusqu'où d'ailleurs.
Alors, incontestablement, c'est une donnée structurelle des relations internationales. Vous avez le discours diplomatique et vous avez finalement l'intérêt des puissances en question. Et on a affaire à des monstres froids. Hein. On a d'un côté les Israéliens qui ont identifié un ennemi numéro un. Et dans cette identification-là, ils rejoignent finalement l'analyse des Saoudiens. Et à travers cette analyse commune, il y a un dépassement d'au moins deux grilles d'analyse. Premièrement, le fait de réduire la région à un conflit interreligieux, ou bien entre juifs et musulmans d'un côté, ou même entre sunnites et chiites. On peut dépasser également cette grille de lecture. Et on peut également dépasser cette alliance-là objective. Comme on disait à une certaine époque, permet aussi d'identifier finalement la reconfiguration qui est en train de se jouer dans la région, au-delà des appartenances ethniques aussi. Donc vous voyez bien qu'on a affaire à des monstres froids qui ont identifié des intérêts communs, et ces intérêts communs sont susceptibles de redéfinir la carte de la région. Mais reste la question des Palestiniens dans cette reconfiguration-là. Et à mon avis, peut-être que au-delà du jeu des élites, des chefs d'État, la parole des peuples va peut-être rattraper finalement les calculs des uns et des autres, et qu'à un moment donné, la situation par exemple humanitaire extrêmement grave qui sévit à Gaza pourra imploser et peser sur ce jeu-là.
Frédéric Ancel, la question palestinienne, elle pèse encore beaucoup aujourd'hui dans les pays du Golfe. Autant en tout cas que peut-être dans d'autres pays arabes, je pense à l'Égypte, je pense à la Jordanie par exemple, qui sont des alliés d'Israël.
Elle pèse extrêmement peu, elle a été renvoyée au rang de contentieux. Objectivement, aujourd'hui, vous avez, pour reprendre l'adverbe, vous avez dans les pays du Golfe, dans plusieurs autres États, je pense évidemment à l'Égypte, la volonté de ne pas ou de ne plus en faire une thématique fondamentale, parce que, encore une fois, le paradigme a changé. Aujourd'hui, l'ennemi, c'est l'Iran. Vous avez ce que j'ai appelé tout à l'heure une véritable guerre froide, voire même peut-être ce qui est perçu de plus en plus en Israël comme une guerre civile au sein du monde musulman, dans laquelle, guerre civile, finalement, Israël jouerait un rôle tout à fait secondaire. Ce qui est sûr, c'est que les diplomaties des États arabes jouent un rôle moins important, en tout cas sont moins proactives dans la défense des Palestiniens. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est le rôle de l'Égypte, qui, elle, alors pour le coup, est frontalière à la fois de Gaza et d'Israël, et en paix avec Israël depuis 1978. Le maréchal Al-Sisi a réussi à contribuer, pour une part, semble-t-il, assez importante à la réconciliation, qui durera ce qu'elle durera, mais enfin, en tout cas, la énième réconciliation, cette fois-ci, ça semble durer un petit peu, entre le Hamas, qui avait le pouvoir à Gaza depuis son putsch de 2006 et 2005, et l'autorité palestinienne. Mais c'est intéressant, parce qu'il s'agit précisément vis-à-vis des opinions publiques des pays arabes, et là je suis d'accord avec ce qui a été dit, reste attaché tout de même à la cause palestinienne, vis-à-vis de ces opinions publiques, il faut, j'allais dire, donner un os à ronger. C'est-à-dire que si le président Al-Sisi peut se faire fort, et il l'a fait dans les médias égyptiens, on l'a beaucoup vu, peut se faire fort d'avoir contribué à une réconciliation interpalestinienne et à tenter de remettre sur les rails un processus de paix israélo-palestinien, eh bien, il aura moins de risques d'être confronté à une opinion publique qui lui dira « Écoute, l'Iran, c'est très bien, mais n'oublie pas les Palestiniens. »
Frédéric Chillot.
Oui, justement, on ne peut pas imaginer une alliance officielle entre Israël et l'Arabie Saoudite sans qu'il y ait une compensation à offrir aux Palestiniens. On a cru longtemps que cette alliance pourrait se faire, cette réconciliation pourrait se faire sur et sacrifier les Palestiniens, mais en réalité, ça viendra compenser cette alliance. Et aujourd'hui, avec Trump, qui parle d'un deal ultime également, on peut imaginer qu'une alliance et une réconciliation ait lieu. Et vous savez, il se dit en ce moment, il y a beaucoup d'annonces qui sont faites, notamment dans la presse, sur le fait que les Américains annonceraient à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine un nouveau processus de paix avec les Palestiniens. Et justement, les Saoudiens entreraient dans le deal en promettant une reconnaissance d'Israël et en relançant, en fait, l'initiative de paix arabe de 2002, l'initiative saoudienne. Et c'est, selon les dernières informations, les Saoudiens seraient prêts à faire aussi des compromis, et notamment sur le droit au retour des Palestiniens. De leur côté, les Israéliens pourraient accepter un compromis sur Jérusalem et une internationalisation de Jérusalem, ce qui semble toutefois peu probable, mais ça ressemblerait à des plans que les Français ont depuis longtemps.
Mais ce que vous décrivez, Frédéric Chilour, et la question s'adresse à vous trois, c'est-à-dire est-ce que ce sont des conclusions ou des pistes qui sont directement évoquées lors de contacts entre Américains, Israéliens et Saoudiens, ou bien c'est juste la convergence d'intérêts communs qui fait qu'on peut émettre ces hypothèses-là, Belik Nabli?
Encore une fois, je pense que ce type d'hypothèse... Enfin, on imagine assez bien ce type d'échange et ce type de configuration théorique. Le problème, c'est le moment où on passait à l'acte et surtout le moment où les élites politiques, les représentants devront vendre finalement la solution commune de tous les acteurs, de toutes les puissances de la région. Et là, pour le coup, on risque de s'apercevoir du décalage entre finalement les calculs que peuvent faire ces monstres froids que sont les représentants des États et de leurs intérêts, et de l'autre, finalement, les passions qui traversent les peuples, quels qu'ils soient. Je rappelle quand même que, d'un côté, vous avez, certes, on le dit assez souvent, cette montée de l'islamisme politique, qu'il s'agisse dans le monde chiite, mais aussi dans le monde sunnite, mais vous avez aussi une situation israélienne assez exceptionnelle, avec un gouvernement de droite nationaliste avec des éléments forts d'extrême droite, hein, dans un régime qui se présente comme démocratique, mais avec un gouvernement atypique, et avec une société elle-même qui s'est radicalisée au sens littéral du terme. Il suffit là de lire les journaux israéliens eux-mêmes. Hein, une radicalisation qui renvoie encore une fois à ce problème qui sera à un moment donné de vendre une solution politique, disons, raisonnable ou rationnelle, à des populations qui ont été radicalisées par des discours radicaux. Là, on pourra, pour le coup, demander des comptes à un Benjamin Netanyahou qui tient un discours très 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 dur, mais qui est susceptible, dans les couloirs, dans les cénacles diplomatiques, de tenir peut-être des discours beaucoup plus réalistes. Le problème, c'est qu'à un moment donné, lui-même sera pris au piège le jour où il sera susceptible de conclure un accord.
Alors, dans cette incertitude, on peut aussi rajouter une strate supplémentaire, qui est celle des États-Unis. Que vaut l'alliance aujourd'hui, ou le parrainage, disons, américain à l'égard des Israéliens, Frédéric Ancel, avec un Donald Trump dont, personnellement, en tout cas, je n'ai pas bien compris quelle était sa vision de ce que pouvait être la politique régionale et, a fortiori, la politique israélienne.
Je vous rassure, vous n'êtes pas le seul. Netanyahou, le 15 février dernier, se rend à Washington pour rencontrer le nouveau président. Et la stratégie de Netanyahou consiste à demander au président américain de ne pas se mêler des affaires israélo-palestiniennes. Et Netanyahou a toujours considéré qu'il fallait discuter directement avec Mahmoud Abbas. Bon, très bien. Et Trump ne lui dit pas, contrairement à ce qu'ont relaté beaucoup de, ou à ce qu'ont compris beaucoup d'observateurs, il ne va pas plus loin que ce qu'a demandé Netanyahou, il va ailleurs. Il répond avec son anglais légendaire, si vous aimez, vous, Israéliens et Palestiniens, si vous aimez la solution à deux États, je l'aimerais aussi. Si vous aimez la solution à deux États, je l'aimerais aussi.
Enfin, un État. Voilà.
Un État.
Non, mais il évoque les 10 hypothèses. Deux hypothèses. Ou un État,
voilà. Alors, l'hypothèse d'un État, alors ça, c'est hallucinant parce que dans la communauté internationale, personne n'a jamais sérieusement évoqué ça. La solution à deux États, elle est même comprise, c'est le fondement des accords d'Oslo de 93. Bon, alors qui malheureusement aujourd'hui sont par terre, mais enfin, on ne parle plus depuis très longtemps d'une solution à un État, y compris et surtout à Washington, d'une part. D'autre part, Trump se désintéresse manifestement de la question. Lui qui ne travaille absolument pas ses dossiers où qu'il aille. On l'a bien vu encore récemment lors de son voyage en Arabie Saoudite début juin. Et par conséquent, bien sûr, l'alliance entre Israël et les États-Unis demeure extrêmement forte, notamment sur le plan militaire, sur le plan politique aussi. On le voit bien avec l'ambassadrice américaine à l'ONU. Mais si vous voulez, on ne peut pas, et là, pour le coup, c'est une mauvaise nouvelle, on ne pourra pas compter sur les Américains pour jouer, allez, on va dire, l'honnête courtier, comme un Clinton, par exemple, a pu faire à l'époque des accords d'Oslo dans les années 90. En revanche, et un petit point d'optimisme par rapport à ce qui a été dit, bien sûr que le gouvernement israélien est très nationaliste, c'est incontestable. Je rappellerai simplement que Begin était un ultranationaliste, qu'il a fait la paix de Camp David avec les Égyptiens en 78 et 79, et que Ariel Sharon était quand même pas considéré comme une colombe, c'est le moins qu'on puisse dire, il venait aussi de la droite du Likoud, et que en 2006, alors il n'a pas signé la paix, mais il s'est retiré unilatéralement de la bande de Gaza et de toutes les implantations, il y en avait 20 exactement, qui vivaient. Donc je dirais que là, oui c'est vrai ce que vous dites, mais je dirais que ce n'est pas le seul critère à prendre en considération dans l'espoir ou pas de voir un vrai processus de paix revenir sur les rails.
Si j'ai rappelé la donnée politique interne israélienne, c'est parce qu'à un moment donné, les acteurs diplomatiques devront la prendre en considération aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on faudra passer par la case démocratique. Et là, pour le coup, Israël, qui aime à rappeler son identité politique démocratique, devra en faire la démonstration en soumettant un accord qui serait historique à une population, encore une fois, qui a été soumise à un discours de plus en plus radical, justifiant la colonisation, légitimant l'occupation militaire sur certains territoires. Donc à un moment donné, il y a un coup politique. Et ce coup politique, tout le monde le paiera, y compris les leaders israéliens. Et c'est bien là où est le problème. Et du point de vue palestinien, pour le coup, alors on n'a pas encore trop parlé, mais effectivement, il y a un processus de réconciliation, mais l'autorité palestinienne a sa part de responsabilité, naturellement. On voit pas très bien à quoi elle a servi depuis un certain nombre d'années. Elle est en crise de légitimité et il va falloir qu'elle fasse la démonstration de son utilité pour le peuple palestinien et dans le jeu des puissances actuelles. C'est-à-dire, si les Palestiniens n'existent pas, c'est qu'il a une part de responsabilité de ceux qui sont censés les représenter.
Est-ce que c'est une unité qui peut être vue aussi comme utile du point de vue israélien, Frédéric Chillot, c'est-à-dire de se dire, bah, voilà, au moins il y a une unicité, un interlocuteur unique, même si c'était déjà le cas, puisqu'il n'y avait pas de discussion avec le Hamas.
Avec les États-Unis. Ou avec, vous parlez
non, entre Israéliens et Palestiniens.
Ah, entre Israéliens et Palestiniens. La réconciliation palestinienne, aujourd'hui, on va le voir dans les prochains jours, le 21 novembre prochain, il y a une nouvelle réunion importante qui aura lieu. On verra si certains points seront à nouveau établis. Pour l'instant, c'est une réconciliation civile, administrative. Et puis, la réconciliation entre Fatah et Hamas pâtit beaucoup de cette guerre froide entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, parce que Abbas a été convoqué, vous savez, à Riyad, on lui a demandé de se délier absolument du Hezbollah, de l'Iran. Je voulais rappeler simplement à propos des États-Unis que cette alliance avec les États-Unis est importante après 8 ans de gouvernement Obama. Et vous savez qu'il y a un an seulement, les États-Unis signaient à l'ONU, au Conseil de sécurité, appuyaient une résolution qui condamnait la colonisation. Donc vous voyez, on en est aujourd'hui très loin. Et pourtant, avec Trump, cette alliance qui apparaît sur le papier extrêmement solide ne l'est pas du tout, puisqu'on sait que Trump est absolument imprévisible, impétueux, autant que le jeune roi, que le jeune prince héritier en Arabie Saoudite. Et puis, les Israéliens, s'ils peuvent se satisfaire, par exemple, des discours de Trump sur le nucléaire iranien, sur l'accord qu'il faudrait revoir, sur l'UNESCO, où il y a une politique de suivisme absolu d'Israël par rapport aux États-Unis, et bien sur le terrain, on l'a vu avec cet accord qui s'est fait sur la frontière avec la Syrie, Israël ne peut pas compter en fait sur son allié américain, puisque l'Iran est à 50 kilomètres d'Israël, malgré cet accord fait avec Washington, la Russie et les Jordaniens.
Et du coup, est-ce qu'on peut dire, et ce sera la conclusion, Bélik Nabli ou Frédéric Ancel, que les Israéliens se sentent d'autant plus vulnérables à l'égard de cette alliance avec les États-Unis qu'ils sont tentés de se rapprocher encore plus de l'Arabie Saoudite?
Je pense.
Alors, Bélik Nabli, 30 secondes chacun.
Je laisserai le dernier mot à Frédéric Ancel. Juste un mot. Le blocage actuel, on le connaît tous et on en connaît les données. D'un côté, Netanyahou propose de négocier avec les Palestiniens et les Palestiniens disent « Nous sommes prêts à négocier si vous arrêtez de coloniser ». Donc l'équation, elle est assez simple. Elle est assez simple. Le problème, c'est que le gouvernement israélien actuellement ne veut pas arrêter sa politique de colonisation.
Le gouvernement israélien, aujourd'hui, il fait face à une opposition qui est quasiment inexistante. Elle est atone. C'est la raison pour laquelle la gauche israélienne, de fait depuis pratiquement les fondements des accords d'Oslo à la fin des années 90, elle est pratiquement à taux. Donc effectivement, Netanyahou joue, j'allais dire, sur du velours. Mais encore une fois, en dépit de cela, malgré tout, à au moins 2 reprises, on a vu que des gouvernements israéliens, de manière tout à fait démocratique, avaient tout de même réussi à convaincre la majorité de l'Assemblée, bien sûr, mais de la population, qu'il fallait se retirer d'un certain nombre de territoires.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Frédéric Ancel, Belling Nabli, Frédéric Chilot, qui était en duplex de Jérusalem. J'en profite pour remercier le correspondant permanent de Radio France à Jérusalem qui nous a permis d'organiser ce duplex. Étienne Monin, merci également à toute l'équipe du Grain, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Marine Beccarelli, Antoine Dulster et Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Jacques Hubert.